carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Christa Leuc.
Une icône de nativité, une icône reliquaire de Constantinople du XIIe siècle. Comme tous les ans, Canal Académie fête la naissance du Christ. Et cette année, notre regard plonge dans une représentation tout à fait particulière, une icône reliquaire de la nativité que l'on trouve au musée du Louvre. Pour en parler, et plus généralement de l'iconographie, nous avons le grand plaisir d'accueillir Alain Besançon de l'Académie des sciences morales et politiques, éminent connaisseur de ce sujet. Monsieur Alain Besançon, bonjour.
Bonjour madame.
Et merci d'avoir accepté notre invitation.
Mais écoutez, c'est un grand plaisir, sauf que vous dites que je suis un éminent connaisseur, mais je crois que vos auditeurs vont se rendre compte que je ne le suis pas.
Ça m'étonnerait beaucoup. Vous êtes donc historien, philosophe de l'histoire, notamment l'histoire des religions et du monde russe, que tout le monde connaît. Vous avez publié un nombre impressionnant d'ouvrages sur ces différents sujets et aussi un roman. Alors aujourd'hui, pour célébrer Noël, nous avons choisi d'évoquer une représentation de la naissance du Christ, non dans la peinture, comme les autres années, mais sur une icône. Et nous ne pouvions trouver meilleur interlocuteur pour nous ouvrir ce monde mystérieux des icônes que M. Alain Besançon. Alors, il s'agit d'une icône reliquaire donc présentée au musée du Louvre et qui, d'après la description, proviendrait de Constantinople au XIIe siècle. La scène de la nativité se trouve au centre, en ivoire, encadrée d'une bordure en argent et des médaillons en corne. Nos auditeurs la trouveront, bien sûr, reproduite sur l'écran dans le texte de l'émission. Alain Besançon, que vous inspire cette icône de Constantinople?
D'abord, une pensée pour un grand byzantinologue qui est membre de l'Institut dans l'Académie des inscriptions et belles-lettres, qui est Gilbert Dagron. Je ne sais pas pourquoi, comme second best, ce que vous m'avez choisi.
Non. Vous êtes trop modeste.
Alors, voyons d'abord la première réaction que je vois en regardant cette icône. Là, vous me l'avez donné une photographie suffisamment nette pour la voir. C'est que je ne suis pas absolument certaine qu'elle soit byzantine. Elle l'est, peut-être, par beaucoup d'égards, mais dans un document que vous m'avez donné, on se demande si ça ne serait pas aussi, ou il n'y aurait pas une influence vénitienne. Et ça, je le croirais assez. Alors maintenant, si vous voulez, je passe à la description de cette icône. D'abord, elle est couverte de ce qu'on appelle dans les icônes russes une risa. Qu'est-ce que c'est qu'une risa? C'est une plaque métallique, en général repoussée, qui reproduit, qui cache l'icône et qui la montre. En général, dans les icônes russes, on ne voit que les mains et la tête. Et dans les icônes de la Vierge dite du Cygne, on voit la figure de la Vierge, les mains de la Vierge en prière, et dans un médaillon qui se situe à peu près sur le ventre de la Vierge, un Christ. Un Christ, mais en général, qui n'est pas un Christ enfant, qui est un Christ adulte. Bien. Alors, voyons cette icône. Donc, elle a une risa. Et cette risa, m'ont reproduit en repoussé certaines choses qui ne sont pas très nettes. Elle reproduit deux apôtres en bas, ça, on voit bien. On voit bien que c'est ces deux apôtres en bas, l'un qui a les cheveux frisés, c'est bien que je pense que ça peut être Saint-Pierre, il tient une croix. À moins que ce soit Saint-Jean-Baptiste, qui est souvent représenté avec une croix. Un autre apôtre. Bon. Et puis à droite.
Là, vous parlez de...
De la risa. De la risa, c'est-à-dire cette plaque métallique qui entoure l'icône, mais qui ici ne la cache pas, qui au contraire montre cet objet très précieux en ivoire. Alors, qu'est-ce qu'on voit dessus? Alors, par le haut, on commence par le haut, on voit deux anges. L'un tient un linge, et l'autre tient un vase, d'où sort de l'eau. Alors là, je pense qu'il s'agit d'envelopper l'enfant Jésus, c'est un certain thème qu'on voit dans les icônes de Saint Jean-Baptiste, où en général c'est un vrai accouchement avec... Dans un lit, Sainte Élisabeth est dans son lit, et les saintes femmes sont autour avec des instruments comme justement un vase pour baigner l'enfant, un autre qui tient un vase pour donner de l'eau dans la bassine, et un linge qui est pour l'essuyer. Alors donc il y a deux anges. À gauche, je vois un arbre qui est un palmier extrêmement stylisé. À l'étage inférieur, je vois, alors là c'est très classique, je vois un âne et un bœuf. L'âne et le bœuf, ça vient des évangiles apocryphes. Il n'est pas question, je crois, de l'âne et du bœuf dans les évangiles canonique. C'est-à-dire, ceux qui parlent de l'enfance, ni Saint-Luc, ni Saint-Matthieu, à ma connaissance.
Avant, il était plutôt question de l'incarnation, que le Fils descendait du Père, du ciel,
et ben s'incarnait en vie dans la terre. En tout cas, là, il y a la présence d'un âne,
d'un
bœuf qui sont un peu pas très reconnaissables. Enfin, il y en a, le bœuf a des cornes quand même, et l'âne qui est plus gros que lui est là. Alors là, je crois que c'est le protévangile de Jacques. Enfin, c'est ces évangiles légendaires qui n'ont pas été retenus dans le canon des Écritures, mais qui fournissent des tas de détails. Alors, en dessous, nous voyons la Vierge et l'enfant. L'enfant est très étroitement emmailloté, comme c'était la règle dans les représentations de l'enfant au Moyen-Âge.
Oui, avec des
on emmaillotait l'enfant très serré, et c'était une coutume qui a été régulière en Europe jusqu'au XVIIIe siècle, et même à la fin du XVIIIe siècle. Pourquoi ? On pensait qu'il était mieux que l'enfant soit emmailloté pour que les jambes soient bien droites. Et puis en plus, ça le rendait plus transportable. On l'accrochait quelque part sur la bite de la mère, et quelquefois on l'accrochait tout simplement au mur. Comme ça, il pouvait accrocher seul. Mais enfin, l'enfant donc est emmailloté, et il est... Ah, et ça c'est très intéressant, il est sur un socle de pierre. Et c'est un autel.
Vous voyez ça... un autel.
Écoutez, nous voyons dans la Chartre, nous voyons une nativité qui montre justement la Vierge et l'enfant est sur un autel. Pourquoi sur un autel? Parce que ça sera pour plus tard la bête de sacrifice parfait, puisque sur les autels du Temple à Jérusalem, c'était une vaste cuisine dans laquelle on sacrifiait des tas d'animaux, selon un rite particulier. Et là, les Écritures nous disent que le Christ est l'agneau de Dieu, la bête de sacrifice parfaite, il est sacrifié sur l'autel. Il n'est pas sacrifié seulement sur la croix, mais il est sacrifié sur l'autel, c'est-à-dire il fait allusion au sacrifice de la messe, n'est-ce pas? Et nous sommes là dans une représentation liturgique qui annonce le sacrifice de la croix, mais là, sur un autel. Du moins, c'est ce que je crois comprendre. Et c'est pour ça que je suis un tout petit peu étonné, d'ailleurs, parce que je ne vois pas ça dans les icônes d'habitude, le Christ comme couché sur l'autel. Je vois ça dans l'iconographie occidentale, mais je n'ai pas le souvenir, mais encore une fois... J'aimerais que mon ami Dagron, grand byzantinologue, soit là pour me dire...
Ça vous a fait penser à Venise.
C'est là pour ça que je me demande s'il n'y a pas une très forte influence occidentale.
Et il y avait les croisades à cette époque.
Si c'est le XIIe siècle, Constantinople a été prise en 1204, que ça serait une icône du XIIIe siècle et non pas du XIIe siècle, à moins que les Vénitiens et les Siennois étaient partout à Constantinople à cette époque-là. Il y avait étudié des icônes, je dis ça un peu en l'air, mais enfin... Je signale ça quand même à nos éditeurs qui verront, s'espère, cette icône. Alors, à gauche, mais juste la tête penchée sur cet autel, et dans une attitude de monstration, puisqu'elle montre avec sa main l'enfant Jésus. Alors, la Vierge qui montre l'enfant Jésus, ça, c'est un type très, très répandu à Byzance, c'est ce qu'on appelle les Vierges Odogitria. Odogitria, c'est parce qu'elle montre la voie. Elle montre la voie, c'est ça. Elle montre la voie, et la voie, c'est le Christ, évidemment. La voie, c'est le Christ. Alors, c'est une Vierge Odogitria. Vous avez un type d'icône dans lequel la Vierge regarde le Christ et tend la main vers lui, parce que c'est la voie pour tous les chrétiens d'imiter le Christ et de suivre sa voie jusqu'à la croix. Alors, cette Vierge, quelle est sa pose? Eh bien, là, c'est encore ce qui m'interroge, enfin, ce qui fait m'interroger, c'est qu'elle est à moitié assise, à moitié couchée. Alors là, il faut savoir que dans l'iconographie occidentale, la Vierge est très souvent représentée à genoux et contemplant le Christ. Et contemplant le Christ dans un geste de prière, les mains jointes ou les mains collées l'une contre l'autre. Et dans l'iconographie orientale, la Vierge est couchée, ce qui montre que c'est une scène d'accouchement. Les femmes naissent couchées. Et là, elle est entre les deux. De toute façon, elle est toujours habillée, c'est pas ça la question, mais... Elle est plutôt assise que couchée, ce qui m'étonne un peu. Alors, elle est coiffée de son maphorion, c'est-à-dire de ce voile, qui couvre la tête de la Vierge, tant en Occident qu'en Orient. On appelle maphorion, ce qui est un mot grec qui dit ce voile. Et sa tête est entourée d'une auréole. Peut-être une auréole. Elle n'est pas le seul personnage avec une auréole, mais nous entendons un peu la suite de la description. Alors, l'artiste, là, a fait un ivoire assez fouillé, un drapé assez fouillé autour de la Vierge, qui est couverte ainsi jusqu'au pied. Le pied, l'extrémité du pied, étant quand même apparente.
On dirait qu'elle est assise sur un rocher, non?
Elle est assise sur un rocher, effectivement, assise couchée. N'oublions pas que l'enfant est né dans une mangeoire et ce panier que je montrais tout à l'heure peut être aussi une mangeoire, là où mangent les animaux. La Vierge, n'ayant pas trouvé de place à l'autel ou dans un autre endroit, elle a mise là où on mettait les bêtes. Et les bêtes mangent dans leur foin ou leur avoine dans une mangeoire. Et le panier est peut-être aussi une mangeoire. Et dans ce cas-là, les choses ont plusieurs significations. Ça peut être tout simplement une mangeoire. Et dans ce cas-là, elle serait assise sur un endroit. Le rocher serait le signe d'un endroit rude, d'un endroit peu civilisé. Alors, en dessous, qu'est-ce que nous voyons ?
Une deuxième scène.
Alors, il y a une deuxième scène. Alors là, on lave l'enfant. Tout en bas, l'enfant qui est nu. Qui est
ce
ne
serait
nu,
pas le baptême ?
Non.
Non ?
Non, sûrement pas. Le baptême, c'est dans le Jourdain. Et c'est Saint Jean-Baptiste qui baptise le Christ qui est adulte, qui commence sa vie pastorale, sa vie proprement théologique. Là, c'est l'enfant, un enfant nu qu'on lave. Bah, écoutez, je ne vois pas autre chose. On voit une femme qui doit être la Vierge, à la gauche, n'est-ce pas ? Ou alors une sainte femme, mais elle n'a pas d'auréole, je ne la vois pas. Est-ce que c'est la Vierge qui tient l'enfant ? Ben, je n'en suis pas sûr. Je n'en suis pas sûr. Elle est assise sur un rocher encore, et elle lave l'enfant. Laver l'enfant après un accouchement, ça, c'est tout à fait normal pour un saint comme Saint Jean-Baptiste, qui est un homme et qui sort de la mer par les voies naturelles. Mais les Byzantins, comme les Latins, sont très réservés sur la façon dont l'enfant est né de la Vierge. Il est né, quand même, elle est toujours Vierge, c'est un titre de la Vierge, Saint-Père Virginé. Donc elle ne passe pas de telle façon que l'enfant puisse être sali, qu'il y ait lieu de la laver.
Oui, puisqu'il a été incarné dans sa chair.
Il est sorti par des voies sur lesquelles les Écritures sont muettes, sur lesquelles l'Église est très réservé, ne savons pas comment l'enfant est sorti. Nous pensons qu'il est sorti par les voies naturelles, mais de façon miraculeuse, qui ne nécessite pas un lavage. Alors, je me trompe peut-être, mais il semble bien quand même qu'il s'agit d'un enfant qu'on lave, puisque je vois une autre sainte femme qui tient la cruche, et qui certainement lave l'enfant. Alors, c'est pas un baptême. Le baptême de Jésus a lieu beaucoup plus tard. Il a lieu quand il est adulte.
C'était un peu mon idée, sans parler d'interprétation, parce que moi je voyais comme deux grottes et comme une stylisation de deux scènes de la vie du Christ entre la nativité et le baptême, d'autant que j'ai trouvé quelque part une note que certains courants chrétiens des premiers siècles considéraient que l'incarnation du Verbe n'avait eu lieu qu'au moment du baptême par Jean-Baptiste dans le Jourdain, c'est-à-dire que le corps de Jésus aurait été adopté par Dieu seulement à ce moment-là. Alors, j'ai fait le lien, mais peut-être que...
La théologie est très stable, et de toute façon, on ne voit pas le Jourdain.
Non, ça c'est certain.
On ne voit pas le Jourdain et on ne voit pas Saint Jean-Baptiste, puisque celui qui baptise, c'est Saint Jean-Baptiste.
Oui, c'est tout à fait évident.
Et là, ce sont deux femmes qui lavent l'enfant. Je ne vois pas d'autre interprétation. Et cet enfant est bien le Christ, puisque dans son auréole, elle porte une croix sur l'auréole.
Il y a un personnage à gauche.
Alors, le personnage à gauche, c'est un saint, puisqu'il est auréolé.
Oui.
C'est un saint qui médite. Il est dans une pose mélancolique, c'est-à-dire il a la tête appuyée sur la main, et l'autre main étant abandonnée. C'est la pose classique de la méditation mélancolique, enfin de la méditation inspirée. Alors, qui est ce personnage ? Ben, je n'en sais rien, je cale complètement, pas qui ça peut être. Il est barbu. Souvent, Saint-Pierre est représenté les cheveux frisés et avec une barbe, alors que Saint-Paul est représenté chauve, très souvent.
Et c'est pas vraisemblablement Joseph ?
Ah ben, vous me faites penser, pourquoi pas ?
Pourquoi il se tiendrait pas dans l'autre scène à côté de...
Oui. D'ailleurs, il est d'ailleurs en dessous de la Vierge, mais effectivement, c'est tout simplement Saint-Joseph qui est muet, qui ne dit rien dans toute l'Écriture, c'est le prophète muet. Qui ne dit rien et qui, justement, est dans une attitude de contemplation. Mais oui, vous avez raison, c'est beaucoup plus probablement Saint-Joseph qu'un apôtre. Et à droite. Alors, dans la scène de droite, eh bien, je vois non pas les rois mages, mais plus probablement deux bergers. Deux bergers, ils sont très grossièrement chaussés, ils ont des bandes sur les pieds, ils ont le bâton du berger, et l'un contemple l'enfant, contemple le berceau, et l'autre montre le ciel, et c'est à ce moment-là que les anges chantent au-dessus des bergers, paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Eh bien, je crois qu'on a bien décrit l'icône. Il y a un autre arbre stylisé à la droite, symétriquement, par rapport aux anges. Ah, attention! Nous avons tout en haut l'anonyme, c'est-à-dire une figure de Dieu le Père, probablement, qui parle. Et je pense que ces choses qui descendent, là, cette espèce de choses qui descendent, c'est la parole du Père, la parole de Dieu, ou dans laquelle il désigne son Fils. Il désigne son Fils.
Qui descendit du ciel, alors.
La parole descendue du ciel, exactement.
Et il faut ajouter, au point de vue contemplation artistique, que c'est très finement sculpté dans cet ivoire, donc.
Assez finement sculpté. Ce n'est pas, si vous voulez, la finesse de sculpture des ivoires français du XIVe et du XVe siècle.
Oui, mais on est...
Mais nous sommes dans un style byzantin, donc... Et vous savez qu'à Byzance, on n'aimait pas trop les représentations en ronde bosse. On acceptait le relief, mais...
Oui, mais on est déjà à Constantinople à ce moment-là.
Oui, mais ça, c'est quand même une règle qui dure. Ça, nous sommes après le concile de Nicée qui avait canonisé la règle de représentation de l'image divine. Ça, on peut revenir là-dessus. Mais de toute façon, la sculpture ne convient pas pour les sujets religieux parce que ça pourrait engager à l'idolâtrie. Donc, la sculpture, on ne peut pas passer derrière, si vous voulez. C'est un bas-relief. Mais ce n'est pas une sculpture. Ça, c'est pas possible.
Pour revenir sur ce que vous avez nommé le ou la Risa, c'est-à-dire pour nous, profane, le cadre en argent.
Oui, qui n'est pas tout à fait une Risa, puisque, bon, je ne sais pas, enfin, en russe, ça s'appelle une Risa, mais une Risa, ça cache, ça protège l'icône, n'est-ce pas? Parce que c'est pour ça que l'icône est un objet de piété, on ne pensait pas qu'elle avait une valeur artistique. C'est seulement au début du XXe siècle que les Russes se sont aperçus qu'ils avaient quelque chose d'artistique qui était les icônes. Et comme le...
Un trésor.
C'était un trésor et surtout un trésor ancien, puisque les plus anciennes icônes, c'est du XIIIe siècle. Donc, ils avaient un art, ils étaient très fiers de ça, ils avaient un art, ce qui leur manquait jusqu'alors, ils avaient un art ancien. Parce que l'art russe qu'on appréciait comme art, c'était ce qu'on avait fait à partir du XVIIIe siècle ou du XIXe siècle. Que la Russie ait eu un art médiéval, qu'on pouvait mettre en continuité avec l'art occidental médiéval, avec l'art italien en particulier, ça c'était pour les Russes un grand objet de fierté et de découverte. L'histoire de l'art est pétrie de nationalisme, et là les Russes avaient quelque chose à se mettre sous la dent. Donc on a ôté les risas, et on a trouvé donc des mains et des têtes, des figures, des images de têtes et de mains complètement noircies par les cierges. Et en dessous, il y avait quelque chose, en général, en très mauvais état. Alors, on les a repeintes, on les a nettoyées, mais en fait, on les a pas mal repeintes. La plus célèbre des icônes qu'on voit partout, l'icône de la Trinité de Roublov, est une icône qui est repeinte à 80%. Oui, mais le motif est là. Et l'Église ne s'est jamais engagée sur le point de savoir si les trois anges qui viennent chez Abraham, d'ailleurs, l'Écriture n'est pas trois anges, il dit trois hommes, étaient une vision de la Trinité. Ça, non. Enfin, on ne sait pas. Dans l'église Santa Maria Maggiore, vous avez la visite des trois hommes ou des trois anges dans la maison d'Abraham, et Abraham les reçoit, et ça s'appelle l'icône de l'hospitalité d'Abraham. La xénophilie d'Abraham, enfin, parce qu'il accueille l'étranger, n'est-ce pas?
Pour revenir à ce que vous disiez sur les icônes russes, avant, ça ne servait uniquement comme objet de dévotion.
C'était des objets de dévotion. C'était à peu près comme nos sculptures de Saint-Sulpice, puis ils sont aperçus que c'était vieux, que c'était une valeur d'art, on les a un peu refaites. Mais il existait quand même, bien documenté, les icônes byzantines, et cet ivoire était connu. Je ne sais pas quand est-ce qu'il est entré dans nos collections, mais je ne sais pas quand. Mais enfin, bon, on connaissait les icônes byzantines quand même. Qui ne sont pas très anciennes. La plupart ne sont pas très anciennes, parce que vous avez eu la crise iconoclaste, qui éclate au 8e siècle, et qui aboutit à la destruction de presque toutes les icônes antérieures. Vous savez que ça, c'est une question très très disputée, mais vous avez peut-être d'autres questions à me poser.
Donc, si vous voulez bien,
nous avons terminé la description.
On va peut-être quitter les mystères de cette icône représentant la nativité que vous avez magnifiquement et largement décrite pour passer à l'autre sujet. Parce que vous êtes, j'insiste, un grand spécialiste de l'iconographie, de l'icône et de l'image admise ou interdite. Vous avez beaucoup traité de la question des icônes et de la querelle des images. Alors je voudrais quand même à ce moment citer un de vos ouvrages clés, qui est L'image interdite, une histoire intellectuelle de l'iconoclasme, paru chez Fayard en 1997, c'est ça ? Et,
oui,
et en 2000,
oui.
Il a été repris en folio chez Gallimard, en poche.
Oui, c'est ça.
Paru chez Fayard en 1997, c'est ça ? Alain Besançon, nous avons vraiment la chance de vous entendre ici à Canal Académie. Nous profitons de cette nativité, de cette icône que nous venons d'évoquer pour parler de l'icône, de l'iconographie et de l'iconoclasme plus largement. Alors peut-être pourriez-vous commencer par définir ce qu'on entend par iconographie et iconoclasme.
Il s'agit de savoir par quelle mesure on a le droit de représenter Dieu ou les dieux. Parce qu'encore une fois, l'argumentation contre la représentation des dieux est antérieure au christianisme. Et pourquoi ? Eh ben, c'est à Platon. Platon en a donné la raison. Depuis plusieurs siècles, les Égyptiens, les Mésopotamiens, les Grecs représentaient les dieux. Ils leur donnaient, en général, pas en Égypte, mais en Grèce, ils leur donnaient une figure humaine idéale, femme, homme, etc. Alors, les philosophes grecs, la philosophie grecque est un mouvement religieux, une somme de réforme de la religion populaire, a critiqué cette représentation. Et au nom d'un argument qui sera repris dans toute l'histoire, c'est que l'idée de Dieu est trop haute pour être représentée par des mains humaines. Et là, ça rejoignait une proposition, un ordre constitutionnel dans un autre univers, l'univers du monde juif, dans lequel l'interdiction de représenter Dieu était constitutionnelle, c'était absolu. Et quand les Juifs avaient représenté une figure de Dieu sous la forme d'un veau d'or, pour garder ce Dieu qui venait de leur être révélé par Moïse, ben Moïse s'est mis très en colère, et ça a été considéré par lui comme une apostasie, et ça a été un châtiment extrêmement grave qui est tombé sur ces Hébreux qui avaient adoré le veau d'or. Et la Torah, la loi de Moïse interdit, mais de façon minutieuse, toute représentation, pas seulement de Dieu, mais des hommes, des animaux, de tout.
Représentation des hommes et de la nature.
De la nature. Le monde hébraïque, le monde juif, est constitutionnellement, par un ordre positif de Dieu, iconoclaste. Il ne veut pas aïconique. Il ne veut pas du tout d'icône.
Chez les musulmans également ?
Oui, mais c'est pas pour la même raison. Là, il s'agit pas d'un ordre de Dieu. Il n'y a pas, dans le Coran, mais c'est l'idée de Dieu même qui, alors là on rejoint si vous voulez Platon, c'est l'idée même de Dieu qui rend absolument impossible l'idée qu'on puisse le représenter d'une façon quelconque. Donc, si vous voulez, dans le cas des Juifs, l'interdiction de la représentation d'un ordre positif, parce que Dieu est tout près, c'est son peuple élu à qui il donne des ordres, et dans le monde musulman, alors qu'est un monde fondamentalement païen, Dieu est trop loin. Dieu n'est pas représentable. Il a consenti à donner une loi, hein, le Coran, mais il n'est pas représentable non plus. Et alors les chrétiens ? Ben, les chrétiens, longtemps, ils ont obéi à l'ordre des Écritures. Donc l'iconographie, et surtout l'iconographie des représentations saintes, a été complètement réprimée. Mais voilà, il y avait un problème, c'est que quand même, Dieu s'était incarné. Et qu'il s'était incarné sous la figure d'un homme. C'est pas sous la figure d'un homme, il s'était incarné, c'est-à-dire qu'il était à la fois homme et Dieu. Et quand on représentait le Christ, on représentait Dieu. Est-ce qu'on avait le droit ? Est-ce qu'on avait le droit ? Alors là, vous avez une querelle qui s'est étalée sur des siècles, et qui s'est... Bon, il y a eu des conciles, le second concile de Nicée, qui a réglé un peu les choses, et qui a permis, dans une certaine mesure, la représentation du Christ, et par extension, la représentation de la Vierge et des saints, etc. Et en Occident, alors là, ça n'avait pas fait d'histoire. parce qu'on n'avait pas pris très au sérieux l'interdiction théologique de représenter les images. Et surtout, le pape voyait dans l'image une Bible pour ceux qui ne savaient pas lire, pour les idiots. Donc,
comme
on pouvait représenter,
de
autrement dit, c'était la façon dont les latins envisageaient les images, c'était dans un ordre rhétorique, et non pas dans un ordre théologique, comme les Byzantins. Non, ça n'a pas été facile. Enfin, disons que Rome a toujours laissé les artistes représenter à peu près comme ils voulaient. Comme ils voulaient, simplement avec des exigences de décence. Mais par exemple, quand Michel-Ange a peint le jugement dernier, le pape n'a pas dû être très content parce que théologiquement, c'est un petit peu limite. Il a laissé faire, il a simplement veillé à ce qu'un peintre diminue les nudités. Il ne voulait pas faire passer quelques linges. Mais c'est tout. Mais il n'a pas critiqué la théologie, pourtant assez douteuse, de cette vaste représentation du jugement dernier. Il a fait ça parce que Michel-Ange était génial, il avait le droit, dans la liberté que donnait Rome, d'opérer comme il voulait, à condition que la décence ne soit pas atteinte. Alors en Orient, après tous ces conflits, c'était une guerre civile, on est arrivé à un compromis qui est l'icône, justement. Qui est l'icône qui doit obéir à des canons extrêmement stricts. L'artiste ne fait pas ce qu'il veut.
Vous voulez dire dans l'église orthodoxe,
chrétienne orthodoxe. Dans l'église orthodoxe, dans l'église orientale. Non, dans tout l'Orient, toutes les églises orientales. Alors l'icône, on a le droit donc de représenter les choses divines, mais selon des canons très définis pour qu'on ne s'écarte pas et qu'on ne tombe pas dans de l'idolâtrie, dans des excès, dans une fantaisie, parce que théologiquement, ça serait très sérieux. Alors que dans l'Occident, on laisse faire les artistes. Alors donc, il y a eu des modèles qu'on appelle des canons dont l'artiste ne doit pas s'écarter. Et la confection de l'icône est une démarche sainte, une démarche liturgique. On n'a pas le droit de peindre comme on veut. Il faut d'abord se purifier. Il faut d'abord réciter certaines prières. C'est un acte sacré. Et l'icône est porteuse de quelque chose de sacré, beaucoup plus que l'image occidentale.
Et toujours sur fond or?
Non, pas du tout. Il y a des tas de fonds divers. L'or, ça représente la lumière. Mais enfin, l'icône est toujours porteuse d'un message théologique très étroitement défini. Très étroitement défini. Alors, il y a des petites variations quand même. Il y a des écoles, par exemple, il y a des écoles russes, yougoslaves, grecques, constantinopolitaines. Si bien que les icônes, on les distingue quand même. Mais elles obéissent toutes à des canons. Alors, pourquoi est-ce un compromis? Ben, parce que, qu'est-ce qu'on peint dans l'icône? On peint des choses sacrées, on peint des choses du ciel. Et on ne peint pas la nature. Voyez-vous, l'arbre ici, justement, ces deux arbres, ils existent à peine. C'est simplement le signal qu'on est à la campagne, enfin, ou dans l'icône d'Abraham, on voit la maison d'Abraham.
Ou à Bethléem?
Oui, à Bethléem, c'est une petite ville, oui. C'est une petite ville dans les icônes
enfin,
de l'art.
Enfin, quand même, ils étaient supposés être un peu éloignés du village, puisqu'il y avait l'âne et le bœuf, donc ils étaient dans une ferme.
L'âne et le bœuf, ils devaient les mettre quelque part. Oui. Il y en avait des bœufs, sûrement, dans la mangeoire, enfin, dans la grotte, c'était probablement une grotte. Hein, ou une grotte, ou un simple abri, une étable, tout simplement. Mais enfin, ils sont très stylisés, hein, le bœuf et l'âne. Et les arbres sont extraordinairement stylisés.
Oui, absolument.
Extraordinairement stylisés. Donc, on représente les choses du ciel. Et l'icône est très fière de ça, parce que il dit l'art occidental représente une femme nue dans les détails les plus choquants, alors que nous peignons des choses très très hautes. Et l'icône a été chargée d'un pouvoir sacré tel que, alors ça c'était un peu hérétique, quelquefois on grattait l'icône pour en faire tomber des petits bouts dans le vase eucharistique. Comme si l'icône était transsubstantiée en étant mélangée au vin et au pain dans le calice eucharistique.
Et pour le consommer?
Oui, on la consommait. On consommait donc des petits bouts d'icône qui servaient
d'une
mana,
pour se nourrir de spiritualité.
Ah non, l'eucharistie, c'est pas se nourrir de spiritualité, c'est...
Enfin, du corps du Christ.
C'est consommer le corps du Christ, oui. Le corps et le sang du Christ. Et l'icône, les petits bouts d'icône n'ont rien à faire là-dedans. C'est ce qu'on disait à Byzance, qui n'approuvait pas, enfin, les autorités byzantines n'approuvaient pas cette pratique.
Est-ce qu'on peut dater quelques grandes époques de l'iconoclasme?
Oui. Alors, j'ai dit que presque toutes les icônes avaient été détruites au moment de la grande crise iconoclaste. Hein. Il y avait déjà une partie
qui se situait quand?
Ah ben, c'est au 8e, 9e siècle. Où est-ce qu'on trouve encore des icônes antérieures à ce grand massacre d'icônes? Eh bien, on en trouve en Égypte, en particulier dans le couvent Sainte-Catherine du Sinaï. Pourquoi? Pas parce que nous étions sous domination arabe, et donc sous domination musulmane, mais les musulmans respectaient plus ou moins les cultes chrétiens qu'ils trouvaient sur place. Et donc, les plus anciennes icônes sont pratiquement les icônes qui ont échappé au grand bris d'icônes de la crise iconoclaste en pays arabe.
Oui, on peut les consulter dans les librairies. Il y a des reproductions
très,
à
très
défaut
belles,
de se rendre
très, très
alors, personnellement à Sainte-Catherine. Il y a des reproductions magnifiques.
Oui, alors vous en avez une au Louvre qui est très intéressante, qui est le Christ avec l'abbé Ménard, qui est une icône justement pré-iconoclaste. Alors, elles sont pas du tout comme les icônes post-iconoclastes, avant et après la crise. Elles sont beaucoup plus charnelles. Elles ressemblent beaucoup plus, si vous voulez, au portrait du Fayoum.
Oui,
vous avez le
qui sont des portraits coptes.
Les portraits coptes. Alors là, vous avez des crises qui sont beaucoup moins éthérées qu'après la crise.
Alors donc, cette crise, vous la situez au 8e siècle ou 9e?
Je crois que le concile de Nicée est de 850, quelque chose comme ça. Voilà, c'est 843. Et alors, le rétablissement du culte des images par l'impératrice d'Orient, c'était Théodora, oui, moi je crois que c'était Irène, enfin peu importe. Mais enfin, sa crise a duré un siècle, hein, elle a duré très longtemps, il y a eu des rebondissements, et ça a duré un siècle à peu près, cette crise. Après quoi, l'icône a pris la forme que nous connaissons aujourd'hui. Et alors, le rétablissement du culte des images, c'est la fête de l'orthodoxie. Elle est fêtée chaque année. Et en quoi? Quel était l'argument des iconophiles? C'est que, en niant la possibilité de l'icône, on portait atteinte au dogme chrétien fondamental, c'est-à-dire l'incarnation.
L'incarnation, c'est un grand thème théologique.
C'est le thème théologique fondamental du christianisme. C'est que ce Dieu qui se fait homme, c'est mystérique, parce que, contradiction dans les termes, c'est un mystère qui fonde le christianisme. Mais alors, si le Christ ne s'est pas incarné dans un homme, et c'est un homme, c'est pas le dans l'humanité, c'est dans un homme particulier, eh bien, on porte atteinte au dogme de l'incarnation. C'était l'argument des iconophiles.
Pour revenir aux iconoclastes, puisque c'est quand même le thème de votre ouvrage, il y a on peut relever des grandes figures à partir de Calvin.
Oui, ça a été repris. La crise revient toujours parce que, au fond, c'est toujours très troublant qu'on puisse représenter Dieu. Alors justement, les Calvin, éthique, est un iconoclaste parfait. Il refuse qu'il y ait la moindre image sainte dans le temple. Calvin permet, alors il permet la représentation de la nature, et vous regardez la peinture hollandaise, c'est une représentation exquise de la nature, qui est d'ailleurs pénétrée de quelque chose de sacré, comme si on représentait la nature, on représentait la création, et par conséquent on rendait hommage à Dieu. Mais vous n'avez pas d'image sainte dans les temples calvinistes. Et dans le monde philosophique, vous avez également, disons, Pascal, il est iconoclaste, et Kant est iconoclaste, et il dit que la Torah n'a rien de plus beau, n'a rien de plus sublime que justement l'interdiction des images. Donc, la possibilité de l'image sainte est toujours contestée et malheureusement, elle devient lentement impossible au XXe siècle. Si vous voulez, quand on voit la naissance de la peinture abstraite, en Russie d'abord, et quelquefois en Occident avec des gens comme...
Vous voulez dire du temps du constructivisme?
Avant. Kandinsky, Malevich sont iconoclastes conscients. C'est-à-dire, ils veulent un art sacré mais sans image. Et c'est la naissance de la peinture abstraite. Et au fond, Mondrian, qui n'était pas calviniste, qui était plutôt ésotériste, et donnant dans toutes les ésotéristes de fin de siècle, c'est pour la même raison qu'il ne veut pas d'image. Et nous offrons cette peinture abstraite qui a dominé et qui rend très difficile l'art sacré. Regardez les peintres pieux du milieu du XXe siècle, comme Manessier, eh bien, ils sont abstraits. Ils sont abstraits tout en étant pieux et tout en étant des chrétiens très ardents. Et ça montre que la crise iconoclaste n'est jamais finie.
Vous évoquez dans votre livre que ce courant qui mène vers l'abstraction pure, justement Mondrian, Malevich, etc.
Il reprend toujours les mêmes arguments depuis Platon.
Oui.
Dieu est trop haut. On peut pas le représenter.
Oui.
C'est une idée. Bon, nous croyons en Dieu, nous vénérons, mais on le représente pas. Alors là, c'est quand même s'écarter. Là, l'Église condamne parce que c'est s'écarter de l'orthodoxie. Qui veut qu'on puisse le présenter, puisque, après tout, c'est le Christ qui a commencé.
Oui.
La première image sacrée, c'est lui.
Vous parlez aussi dans votre livre que ce courant viendrait du symbolisme qui précède, et que cette génération symboliste, qui est née aussi en Angleterre...
C'était des spiritualistes, alors que, si vous voulez, la peinture, disons, du 18e ou du italien, faisait des images sans aucun problème, mais ça se faisait tout seul. Mais c'est quand vous avez cette poussée spiritualiste de la fin... du 19e siècle et du début du 20e, que la question s'est de nouveau posée de façon aiguë et qu'on a créé la peinture abstraite qui est un art sacré.
Oui, et là c'est encore un autre mystère que vous nous révélez et je vous remercie et tous nos auditeurs aussi parce que quand on voit devant ses yeux Mondrian, Malevich, on ne pense jamais à une inspiration fondamentalement religieuse. C'est très, très nouveau.
Et alors, nous voyons la puissance de l'Église catholique, par exemple, à représenter Dieu et la Vierge. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On a cassé les statues de Saint-Sulpice parce qu'on les trouvait pas bonnes, mais elles étaient pourtant des objets de piété tout à fait légitimes. Et on les a remplacées soit par des œuvres abstraites, les vitraux abstraits que nous voyons maintenant dans les églises, et soit par des icônes, des reproductions d'icônes russes ou d'icônes byzantines, plus ou moins trafiquées, et qu'on suspend sur les murs des églises à la place des braves Saint-Sulpice, de l'art Saint-Sulpice, enfin les bonnes vierges de Lourdes, les Saint-Joseph, les Jeanne d'Arc, etc., que vous ne voyez plus dans les sanctuaires.
Écoutez, en tout cas, on sera toujours dans un monde des mystères, qu'il s'agisse de la nativité ou des icônes. On ne pourra jamais vraiment expliquer tous les mystères qui sont compris dans les œuvres d'art.
Les mystères vous disent que vous ne pouvez pas aller jusqu'au bout dans leur explicitation. Mais vous pouvez commencer avec eux. Donc,
c'est une chance, finalement.
Ben, oui.
Si tout était expliqué, ce serait vraiment moins intéressant.
Il y a un noyau, disons, d'inclination devant le mystère dans le judaïsme ou dans le christianisme. Mais pas dans l'islam, qui se définit comme entièrement rationnel.
Écoutez, merci beaucoup Alain Besançon pour cet éclairage sur les icônes et l'iconoclasme à l'occasion de la nativité de Constantinople, donc on suppose du XIIe siècle, exposée au Louvre. Ce fut une véritable exploration à travers les siècles du culte des images et de la destruction aussi des images ou de l'interdiction des images. Donc je rappelle encore pour nos auditeurs le titre de votre ouvrage traitant de ce sujet, « L'image interdite, une histoire intellectuelle de l'iconoclasme » paru chez Fayard et repris en 2000 en folio chez Gallimard en poche. C'est vraiment, je dois dire, une synthèse absolument passionnante de l'histoire mouvementée de l'image divine et de son évolution depuis les premières civilisations, comme nous avons eu aujourd'hui un extrait, jusqu'à l'abstraction moderne. Donc, il me reste à vous souhaiter à tous nos auditeurs et à vous, Alain Besançon, de très joyeuses fêtes de Noël, de la nativité de Jésus, si bien représentée sur cette icône qui était l'objet de notre rencontre aujourd'hui. Merci beaucoup.
Merci, madame.